RFI, 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. L'heure du journal avec vous, Martin Guez, bonjour.
Bonjour, Julien Coquel-Rohem, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité africaine ce matin, l'est de la RDC dévasté par des pluies torrentielles qui ont fait au moins 110 morts dans le village de Kasaba, localité du sud Kivu, dans le territoire de Fizi. Le bilan est encore provisoire, le gouvernement provincial basé à Uvira a dépêché en urgence une équipe de secours. Les premiers jours du pape Léon XIV au Vatican, il a pris la parole pour la première fois hier devant les cardinaux pour les remercier de l'avoir élu, pour détailler son programme et sa vision aussi. Léon XIV félicité par l'Assemblée Générale des Conférences Épiscopales d'Afrique de l'Ouest, une cinquième édition qui s'achève demain à Dakar. Le Burundi tente d'endiguer la fuite de ses médecins qui quittent massivement le pays depuis 2020. Le gouvernement prévoit plusieurs primes pour les inciter à rester exercer au Burundi. En boxe, Souleymane Sissoko a fini par l'emporter hier soir à Malabo. Le voilà challenger de l'américain Marco Barrios pour la ceinture mondiale WC des poids welters. Et puis enfin, gros plan sur Les Enfants Rouges, nouveau long métrage du réalisateur tunisien Lotfi Achour. Des pluies diluviennes et un très lourd bilan en RDC. Au moins 110 personnes sont mortes dans les inondations qui ont touché Kasaba, au sud Kivu, dans le territoire de Fizi. Drame qui s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi dans ce village qui borde le lac Tanganyika. Vincent Dublange.
Oui, les pluies torrentielles ont provoqué la crue des rivières Kasaba et Bekia. Le village de Kasaba a donc été inondé. Tout a été emporté. Les maisons sur le passage des eaux, des éboulements ont été rapportés. Sami Kalonji est l'administrateur du territoire de Fizi. Ses équipes sont déployés sur le terrain.
Nous avons plus de 110 corps qui gisent au sol. 850 personnes sont sans abri, 150 maisons se sont écroulées et nous avons plus de 40 blessés suite à ces catastrophes naturelles. Le bilan reste provisoire car les recherches et le fuit continuent toujours.
Cette inondation meurtrière survient à Kasaba alors que la guerre se poursuit entre les forces armées de la RDC, les milices alliées et puis la FCM-23 soutenue par le Rwanda. Le président de la société civile locale du territoire de Fizi, Jacques Alimassi, demande aux belligérants de ne pas entraver la circulation des secours.
Cette population passe la nuit à la Belle Étoile, ils n'ont pas de vivres. C'est pourquoi nous avions plaidé encore auprès des autorités ou les parties prenantes qui interviennent dans les domaines de sécurité de pouvoir faciliter les couloirs humanitaires afin que les dons arrivent auprès de ces sinistrés.
Dans un communiqué, le gouvernement provincial du Sud Kivu, qui est basé à Uvira, indique qu'une équipe a été dépêchée en urgence à Kasaba pour évaluer la situation.
Merci Vincent Dublange. Un peu plus au sud, les intempéries de cette fin de semaine ont fait 4 morts et près de 2000 sinistrés à Kalemi. Les rivières Loubouyé et Kalé sont sorties de leur lit, inondant plusieurs quartiers de la ville situés dans la province du Tanganyika, au bord du lac, là aussi. La RDC toujours, où le gouvernement de Judith Suminwa vient officiellement de relancer le projet de centrale hydroélectrique de Katende à 75 km de Kananga, dans le Kasaï central, un projet abandonné depuis 9 ans, faute de moyens, et qui reposait initialement sur des prêts étrangers. On revient ce matin sur les premiers pas du pape Léon XIV, élu jeudi après-midi par les cardinaux comme successeur de François. Robert Francis Prévost, qui se fait à son nouveau nom et à son nouvelle fonction après sa première messe vendredi, Léon XIV a hier longuement rencontré les cardinaux au Vatican. Il les a remerciés de leur confiance et les a invités à l'aider dans sa tâche. Une prise de parole qui lui a aussi permis de dévoiler les axes de sa mission pastorale à venir. Correspondance depuis le Vatican, Eric Sénorc.
En recevant les cardinaux pendant près de 2 heures, le nouveau pape est revenu sur le choix du prénom Léon. C'est principalement parce que le pape Léon XIII, avec l'encyclique historique Rerum Novarum, a abordé la question sociale dans le contexte de la première grande révolution industrielle, a-t-il expliqué. Texte fondateur de la doctrine sociale de l'Église, Rerum Novarum est ainsi considéré comme une feuille de route pour le nouveau pontificat, même si les temps ont changé. Aujourd'hui, l'Église offre à tous son héritage de doctrine sociale pour répondre à une autre révolution industrielle et au développement de l'intelligence artificielle qui pose de nouveaux défis pour la défense de la dignité humaine, de la justice et du travail, a encore expliqué Léon XIV. Le nouveau pape compte aussi s'appuyer sur l'héritage de son prédécesseur François, dont il a salué une nouvelle fois la mémoire. Dans la lignée du pape argentin, il a mis en avant quelques priorités pour sa mission à venir, comme la conversion missionnaire de toute la communauté chrétienne ou encore la croissance de la collégialité et de la synodalité. Je sais que je peux compter sur vous, a lancé le nouveau pape aux cardinaux. Un réconfort dans l'acceptation d'un fardeau qui est clairement au-dessus de mes forces, a-t-il avoué. Éric Sénanque, Rome, RFI.
Et une prochaine messe d'inauguration de son pontificat aura lieu le 18 mai prochain. De nombreuses personnalités du monde entier sont attendues. Le pape Léon XIV qui imprime sa marque alors qu'au Sénégal, et c'est un pur hasard du calendrier, se tenait cette semaine l'Assemblée Générale des Conférences Épiscopales d'Afrique de l'Ouest, ce qui concerne au total 16 pays. Une cinquième édition forcément chamboulée par l'élection du nouveau pape. Les participants en ont profité pour lui adresser leurs félicitations et lancer des pistes de réflexion quant à l'autonomie des églises ouest-africaines. À Dakar, Gwendal Alevina.
Le thème pour une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix donnait des indices. Et effectivement, la question de l'autonomie est longuement évoquée par Mgr Twabli Youlo, le président des conférences épiscopales d'Afrique de l'Ouest.
D'abord, autonomie spirituelle, pensée par nous-mêmes, bien sûr, dans une stricte fidélité à l'enseignement de l'église. Autonomie culturelle, célébrer la foi commune de l'église à partir de nos cultures locales, car nous célébrons Dieu avec ce que nous sommes et avec ce que nous avons.
Les participants demandent également plus d'autonomie financière, des aspirations en phase avec les directions données par le Vatican ces dernières années. Pour la conférence, les églises ouest-africaines doivent aussi être des moteurs pour la paix dans une zone en proie au terrorisme.
Nous voulons apporter notre contribution et aucun de nos pays d'Afrique n'est à l'abri. Donc ça doit nous préoccuper tous. Donc la paix, mais pas n'importe quelle paix, une paix basée, fondée sur la justice.
Les 148 participants appellent enfin au renforcement du dialogue entre les différentes communautés religieuses ou sociales avec comme seul objectif l'amélioration de la vie des populations. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
RFI à Bujumbura, 96.1 FM.
RFI, bientôt 8h37 à Gitega et Bujumbura. Le Burundi à la manœuvre pour retenir ses médecins alors que des généralistes comme spécialistes désertent le pays depuis 2020 à destination de l'Europe ou des pays voisins. Alors que pour retenir justement ces médecins, le gouvernement burundais a signé il y a 3 mois une ordonnance. Elle instaure une prime et des frais d'éloignement pour les professionnels de santé qui s'installeraient loin de Bujumbura. Des primes qui sont entrées en vigueur cette semaine. Esdras Ikoumana.
Pour ceux qui ont déjà été payés selon son nouveau barème, un médecin généraliste qui touchait jusqu'ici quelques 500 000 francs burundais, environ 170 dollars, a vu son compte crédité en plus de frais de stabilisation fixés à 1 million de francs burundais, auxquels s'ajoutent des frais d'éloignement qui vont jusqu'à 500 000 pour les plus éloignés de Bujumbura. C'est jusqu'à 4 fois le salaire mensuel perçu jusqu'ici, et pour les spécialistes, le salaire est multiplié par 5 pour les plus éloignés de la capitale économique du pays. Cerise sur le gâteau, le gouvernement a promis que ces primes seront rétroactives à partir de juillet 2024. Un soulagement reconnaît un médecin syndicaliste. Cela devrait freiner l'expatriation des médecins burundais, mais il faut que la mesure soit étendue également aux médecins contractuels qui sont les plus nombreux selon lui. Il faudrait également que le gouvernement parvienne à stabiliser les prix. La vie est devenue invivable au Burundi, ajoute le syndicaliste. Le taux d'inflation flambe, il était pratiquement à 41% au mois de mars et 225% pour le loyer selon la Banque centrale. Un économiste burundais rappelle que le pays traverse une grave crise économique. Je ne vois pas comment le gouvernement pourra financer ses primes à moins d'utiliser la planche à billets. De quoi nourrir un peu plus une inflation galopante, dit-il.
Explication signée Esdras Dikoumana. Les relations sont toujours tendues entre Pretoria et Washington. En cause, la guerre commerciale de Donald Trump, mais aussi cette nouvelle décision de l'administration du président américain qui a décidé d'accueillir ce lundi un groupe d'Afrikaners, des descendants de colons européens, que Donald Trump juge comme étant persécutés et à qui il offre l'asile. Vous entendrez le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Ronald Lamola, dans le prochain journal international. Rendez-vous avec Sophie Pouzrat dans une vingtaine de minutes. Il est revenu de nulle part pour remporter le combat le plus important de sa carrière. Souleymane Sissoko est venu à bout du lituanien Egidijus Kavalioškas. Combat qui avait lieu hier soir à Malabo, en Guinée équatoriale, chez les poids welters, c'est-à-dire les moins de 67 kilos. Le natif de Dakar a remporté sa demi-finale mondiale alors qu'il est allé 2 fois au tapis. Mais Sissoko, plus tortue que lièvre, s'est bien repris et a su sortir des cordes. Sofiane Amazian.
Souleymane Sissoko, en mode diesel, a joué avec le feu. Dans une salle complètement acquise à sa cause du côté de Malabo, le français est dépassé par la puissance de son adversaire Egidijus Kavalioškas. Moins mobile mais plus offensif, le lituanien marque les esprits lors de la deuxième reprise, un crochet du droit qui couche Sissoko compté une première fois. Une alerte terrible pour le médaillé de bronze lors des Jeux de Rio en 2016 qui chute de nouveau au milieu du combat dans le 5e round. Cette fois, l'uppercut de Kavalioškas a failli faire basculer le français de l'autre côté des des cordes. Un début de combat inquiétant, même si l'écart entre les deux boxeurs n'est pas si important. C'est physiquement que le natif de Dakar prend le dessus. Les 7 reprises qui suivent sont une démonstration stylistique. Déplacement rapide, esquive bien sentie et coups précis. Sissoko récite sa boxe, tandis que Kavalioskas fatigue et baisse sa garde à 36 ans. Le Lituanien, qui a déjà combattu 2 fois pour la ceinture, ne peut tenir le rythme et s'incline logiquement par décision unanime. 18 combats, 18 victoires pour l'invaincu Sissoko. La récompense, une place assurée prochainement pour tenter de réaliser son rêve, devenir champion du monde.
Un combat résumé par Sofiane Amazian. Souleymane Sissoko, désormais candidat crédible pour le titre WBC, propriété jusqu'ici de l'américain Mario Barrios. Eux, en revanche, ont perdu leur demi-finale mondiale. Les Lions des Sables s'arrêtent encore aux portes de la finale à la Coupe du Monde de Beach Soccer à Victoria. Aux Seychelles, les Sénégalais ont été battus 5-2 par la Biélorussie en demi. Des Biélorusses qui joueront le Brésil pour le titre. Le Sénégal tentera de son côté de décrocher la 3e place face au Portugal. On part en Tunisie, direction les salles obscures pour la sortie en salle du film « Les Enfants Rouges » du réalisateur Lotfi Achour. Repéré à Cannes en 2016 pour ses courts-métrages, le Tunisois explose avec son second long format. « Les Enfants Rouges » qui raconte l'histoire de 2 jeunes bergers qui font paître leurs moutons à la frontière algérienne a déjà remporté 15 prix internationaux. Ouda Ibrahim l'a vu pour nous.
Les Enfants Rouges se basent sur une histoire vraie, un drame qui s'est déroulé au nord-ouest de la Tunisie en 2015. 2 jeunes bergers sont capturés par des djihadistes dans une montagne où ils avaient l'habitude d'emmener leurs moutons paître. Le réalisateur fait plusieurs choix originaux, d'abord en tournant loin de la capitale, puis en filmant la majorité des scènes dans la nature et enfin en sélectionnant des comédiens non professionnels choisis dans les lycées de la région où s'est déroulé le drame. Dans sa volonté d'explorer la dimension intime de cette tragédie racontée du point de vue d'un adolescent de 14 ans, Lotfi Achour alterne la beauté et la dureté, la poésie et la douleur, le réel et l'imaginaire. Le film opère des gros plans au plus près des visages de jeunes qui, face au tragique, quittent à jamais la douceur de l'enfance pour s'installer définitivement dans le monde des adultes.
Ouda Ibrahim, Lotfi Achour, le réalisateur qui s'était fait connaître avec un premier film, Demain dès l'aube, sorti en 2016. Il racontait alors les destins croisés de deux jeunes femmes et d'un adolescent dans la Tunisie post-révolution. Cette fois-ci, dans Les Enfants Rouges, il tenait à ce que l'action de son film soit la plus juste et la plus authentique possible. Lotfi Achour qui assure que le terrorisme n'est pas le sujet principal de son nouveau long métrage.
C'est pas un film sur le terrorisme, c'est vraiment un film sur l'enfance. C'est vraiment un film sur un garçon de 14 ans qui va vivre un drame, un traumatisme où son enfance est atteinte et il va être confronté au monde des adultes, qui est un monde dur, qui est un monde injuste, qui est un monde cruel. Le film est raconté à travers les yeux de ce garçon, ce qui donne aussi une forme de poésie. Il y a d'autres personnages adolescents dans le film, celui qui se fait tuer, mais aussi un très beau personnage de jeune fille, qui est une cousine. Et c'est aussi un film sur l'éveil des sens entre ces adolescents. Il y a une histoire d'amour qui traverse le film. Il y a aussi beaucoup de douceur parce que ce garçon, il est dans un moment de choc. Il y a une forme de confusion dans sa tête. Il n'a pas encore assimilé la mort. Il ne sait pas ce que c'est exactement. C'est un apprentissage, en fait, de tout ça qui se fait dans une forme de douceur aussi.
Lotfi Achour qui s'est longuement confié à Ouda Ibrahim, entretien fleuve à retrouver et à lire sur notre site internet rfi.fr, onglet Afrique, section entretien. Enfin, c'était une figure majeure de l'art contemporain. Elle devait d'ailleurs être la prochaine commissaire de la Biennale de Venise en 2026. Koyo Kuo s'est éteinte à Bâle, en Suisse, à seulement 58 ans, la native de Douala, qui a notamment dirigé le prestigieux musée d'art contemporain du Cap en Afrique du Sud. Son décès laisse un vide immense à réagir la Biennale de Venise. On revient sur sa carrière dans le prochain journal Afrique dans 3 quarts d'heure. Mais pour l'instant, je vous laisse avec Julien Coquelroem pour la suite de RFI Matin.